La domotique, ça fait très longtemps qu'on en parle. On a un petit peu l'impression que c'est un sujet qui revient très régulièrement sur le devant de la scène. Mais concrètement, est-ce que ça existe au sein des domiciles, des personnes ? Ça, c'est une première interrogation qu'on peut avoir. Et puis, deuxième interrogation, c'est au sein de la silver economy, où là, quelque part, on pourra encore davantage douter, dans le sens où régulièrement, on nous dit que les personnes âgées ont beaucoup de mal à utiliser Internet, ne serait-ce qu'Internet. Donc, de là à passer à des objets connectés, de là à adopter de la domotique, comment ça se fait ? Ils ont un frein par rapport à cette technologie dont ils ignorent tout, pour beaucoup, auxquels ils n'ont pas été habitués pendant leur vie courante. Mais peut-être faut-il voir les choses autrement. Et donc, au sein de la Fédération française de domotique, quel est votre point de vue sur la domotique pour les personnes âgées au sein de la Silver Economy ?
Ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre une après l'autre. Alors, déjà, je pense qu'effectivement, ça fait longtemps, ça fait 35 ans hein, qu'on parle du mot domotique. Donc, c'est pas un scoop. Hein, je ne vais pas vous annoncer un scoop. Il y a deux domotiques. Il y a une domotique historique qui est en train de disparaître, mais qui est encore bien présente et qui est déjà installée dans plusieurs millions de foyers. Donc, ce n'est pas quelque chose de neutre, mais c'est une domotique lourde, chère, difficile à faire évoluer et pas forcément adaptée aux besoins. C'est-à-dire qu'on mettait la même domotique chez tout le monde. Autant dire que ce marché-là, il est mort. Il n'a plus aucun intérêt. C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mmh. Moi, j'ai parlé de la domotique 2.0, qui est une domotique basée sur le numérique, en fait. Hein. Donc, c'est l'Internet des objets, c'est des nouveaux périphériques qui permettent de répondre à la question de Laurent, qu'est-ce qu'on fait pour maman ? S'il faut tout recasser, tout recâbler, tout repeindre, on fait rien pour maman, hein, concrètement, parce que ça va être trop cher, ça va être trop long, ça va être pas forcément adapté, parce que c'est pas ça le cœur du sujet. Alors le cœur du sujet, c'est d'abord l'humain. Moi, on parle de technologie, hein, on pose plein de questions sur la technologie. La technologie est secondaire.
D'accord.
Aujourd'hui, on a une offre, et vous avez des fabricants ici sur le salon hein, qui illustrent ces offres-là, et Thierry va en parler, il y a pléthore d'offres et Dieu merci, contrairement à il y a 10 ans, on a ce qu'il faut pour répondre aux besoins. Mais quel est le besoin ? C'est-à-dire qu'il y avait un slogan de Promotelec, c'était « à chacun sa domotique ». Et je trouve que c'est assez intéressant. Il n'y a pas un besoin identique. Si je prends une rue de 100 maisons, il y aura 100 domotiques différentes. Donc ça, c'est difficile à aborder d'un point de vue marketing, d'un point de vue approche commerciale. Comment je fais ça ? Ensuite, il y a des domotiques plus ou moins adaptées à différents sujets. Donc il faut analyser le besoin. Et moi, domoticien, je suis probablement le moins bien placé pour le faire. Il y a des gens de la santé, il y a des gens, des ergothérapeutes, il y a des gens qui ont cette spécificité-là. C'est d'analyser le besoin et de voir comment on peut adapter un logement à une pathologie, à une situation X ou Y. Donc, nous, domoticiens, on vient en deuxième rideau. On vient une fois que le cahier des charges a été réalisé. Et là, on est une des solutions. Il y a des projets où il n'y a pas besoin de domotique. Ben, on ne va pas appeler un domoticien. Et il y a des projets où, Dieu merci, il y en aura de plus en plus, où la domotique va offrir des bénéfices. Donc là non plus, je ne parle pas de technologie, hein, je parle de fonction et je parle de bénéfices. C'est en quoi ces technologies vont répondre à une situation particulière, comment je vais rassurer la famille, comment je vais aider les aidants, parce que sans technologie, ce n'est pas toujours facile. Et puis comment, effectivement, c'était une de vos questions, comment je vais faire en sorte que ces technologies soient transparentes. C'est-à-dire si c'est stigmatisant, si c'est compliqué, si c'est quelque chose qu'il faut apprendre, bah, jamais un senior va, même s'y intéresser. Alors, il y a toujours quelques seniors geeks ou quelques seniors qui sortent du lot, mais si je prends la majorité des seniors, ils veulent des solutions transparentes, c'est-à-dire intégrées, on ne les voit pas, et répondre à leurs problématiques. D'accord ? Alors, pour ça, il y a des ruptures. C'est-à-dire que on ne peut pas faire évoluer ce marché-là de façon linéaire. On a essayé hein, depuis des années, presque des décennies, on essaye d'intégrer ces produits-là, parce qu'on parlait de produits, comme un autre produit. Malheureusement, et ça, vous regarderez, hein, il y a de la domotique maintenant chez Leroy Merlin, chez Darty, etc. Ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas aborder la domotique avec le produit. Donc il y a des ruptures, j'en citerai quatre, je vais faire rapidement. Il y a une rupture technique, donc c'est ce qui permet de passer d'une domotique d'automatisme à une domotique numérique, c'est l'IP, c'est l'Internet des objets. Il y a une rupture fonctionnelle. Avec ces technologies, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Il y a une rupture d'organisation. Avec l'organisation actuelle du bâtiment, on ne peut pas faire de domotique concrètement.
Dans l'ancien.
Comment ?
Vous dites dans l'ancien, on ne peut pas faire de domotique ?
Dans l'ancien ou dans le neuf. Si on aborde le bâtiment de façon verticale, lot par lot, par silo, hein, ce qu'on appelle des silos, où en gros les entreprises se parlent pas les unes avec les autres, on n'a pas le bénéfice attendu. Parce que sur ma tablette, je vais avoir 5 applications, une domotique d'électricien, une domotique de chauffagiste, une domotique de menuisier, etc. Autant dire, c'est le syndrome télécommande. C'est, j'ai 5 télécommandes dans mon salon, je ne sais même plus allumer ma télé. Quoi. Donc c'est pas ça que les gens veulent. Ils veulent juste un bouton et puis un scénario. Ils veulent au final pratiquement que ce soit transparent et on passe d'une pilotique, une domotique de pilotage. C'est beau comme ça, pilotique. Je viens d'inventer un truc là. D'une domotique de pilotage, je pilote mes volets, je pilote mon chauffage, à une domotique d'autonomie. Mm-hmm. Autonomie dans le sens où ma maison devient autonome. Elle va apprendre de mes habitudes, elle va m'observer, elle va elle-même agir quand il y en a besoin. Donc s'il y a une chute, elle va pas attendre que je dise j'ai un médaillon, j'ai une chute. Non, elle va constater qu'il y a une chute et puis elle va faire ce qu'il faut jusqu'à prévenir toute une chaîne d'humains, parce que j'ai une chute, c'est pas un robot qui va venir me relever. Hein, donc il y a bien un moment, il faut de l'humain. Et tout ça, c'est fondamental de comprendre qu'il y a des nouveaux métiers. Donc dans cette rupture d'organisation, il y a des nouveaux métiers. Il y a une rupture de compétences. Mm-hmm. Donc il y a des métiers actuels qui doivent évoluer vers ces nouveaux services. Et puis, il y a une domotique, je dirais, de process. C'est-à-dire, on aborde la domotique sans process, sans rigueur, ça ne fonctionne pas. Donc il faut apprendre à des architectes, à des promoteurs, à des ergothérapeutes, à aborder ce thème-là de façon beaucoup plus rigoureuse. Et la dernière domotique, c'est celle qui nous, la dernière rupture, c'est celle qui nous intéresse, c'est une rupture de modèle économique. Mm-hmm. On ne vend plus un produit, personne ne va investir dans un objet connecté aujourd'hui. Si je dois acheter même 200 euros un objet connecté, dans ma tête, il va être obsolète dans 18 mois. Donc pourquoi je vais investir dans un produit que je vais mettre dans un tiroir dans 18 mois ? Donc là, il y a des gens, il y a des Blue Linea, il y a des assureurs, il y a des mutuelles, il y a des financeurs. On travaille avec des promoteurs, je vous donnerai un seul exemple. Il y a des promoteurs aujourd'hui nationaux, je le citerai Bouygues Immobilier par exemple, qui a décidé de façon systématique dans tous ces nouveaux logements de mettre de la domotique. Donc c'est pas neutre, hein, c'est y a une rupture aussi. C'est pas petit à petit on met un petit peu de domotique à droite à gauche, c'est systématique. Donc c'est une base. Et sur cette base, chaque locataire va en faire ce qu'il veut. Donc ces modèles économiques, c'est plus j'achète un objet connecté à 200 euros, c'est je souscris à un service. Et ces services, il faut être capable de les proposer au bon moment, à la bonne personne, avec des gens de confiance. Et encore une fois, nous, domoticiens, on est les moins bien placés pour convaincre. C'est-à-dire, si moi, je parle de domotique et j'essaie de dire « acheter de la domotique », on va me taxer de pas être très indépendant. Par contre, un ergothérapeute qui dit à un patient « je pense avoir compris comment on va adapter votre logement », une des solutions, c'est un service lambda, on ne va même pas utiliser le mot domotique, hein, et bien là, ça va être accepté si le prix est acceptable, si le bénéfice attendu est réel, etc. Donc voilà, ces quatre ruptures répondent, je pense, à vos questions. Et c'est ça qu'il faut, je pense, traiter pour développer ce marché.
Très bien, merci. Je me permets de vous dire, j'ai oublié de le rappeler au début de la conférence, si vous avez des questions à poser à nos intervenants en cours de prise de parole, surtout vous n'hésitez pas à lever la main, il y a un micro baladeur dans la salle qui vous permet effectivement de poser les questions et d'avoir les réponses pour pouvoir animer ce débat et puis surtout éviter d'oublier la question que vous souhaitez poser ou qu'elle soit éludée par la suite. Alors justement, par rapport à l'humain dont on vient de parler, François-Xavier, Dominique Boulbet, je voulais vous interroger parce que l'image qu'on peut avoir d'Indépendance Royale est plus sur le produit, très éloigné de la domotique, sans doute du service également. Alors comment est-ce que vous voyez effectivement cette évolution du marché, de la silver economy, de votre activité au sein de ce nouveau concept de domotique en service ?
Bonjour, tout le monde m'entend ? Alors, effectivement, Indépendance Royale, on est le groupe Indépendance Royale. Notre métier, c'est donc d'aménager le logement des seniors. Donc, on va équiper les seniors en monte-escalier. On va les équiper en baignoire à porte, en douche à l'italienne. On va faire de la literie ergonomique, des fauteuils releveurs, des ressorts de WC, voilà. Donc, nous, notre métier, c'est vraiment celui-ci. Ce qu'on peut constater, c'est quand même deux choses. La première, pour reprendre l'intervention de monsieur, c'est qu'effectivement, il n'y a pas deux besoins similaires. C'est-à-dire que les gens vieillissent, ils ont soit un accident, rupture d'autonomie, chute, etc., soit simplement une préoccupation qui se fait jour et donc ils veulent anticiper. Et il y a un moment de leur vie où ils commencent à aménager leur logement et donc à rentrer dans un parcours d'aménagement du logement. Et donc ils disent, ben voilà, alors ça, parfois ça commence par la salle de bain, parfois ça va commencer par la domotique, parfois ça va commencer par le monte-escalier ou je ne sais quoi. Et donc ils commencent et puis progressivement on voit que les briques se mettent en place progressivement. Mm-hmm. C'est très rare en fait qu'on voit une personne âgée qui entre dans une démarche d'équipement du logement, qui achète un produit puis qui reste là. Ça continue. Ça continue, mais chacun le fait à sa façon, avec son parcours. Et c'est pour ça que moi, ce que je crois assez volontiers sur ce marché de la silver economy et plus précisément de l'aménagement du domicile des seniors dans la silver economy, c'est qu'on va aller vers des plateformes uniques de produits et de services. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va aller vers vraiment des opérateurs qui, ma foi, sont capables de proposer ce parcours. Donc nous, on fait d'équipements. Certains... comme Hager, Blue Linea font, ou d'autres font d'autres types d'équipements. Mais finalement, c'est le même logement et la même personne. Mm-hmm. Donc ça veut dire que je pense que le sens de l'histoire, là on a un salon qui fait je ne sais pas combien de mètres carrés, dans 10 ans il sera 5 fois plus grand. Donc je pense que le sens de l'histoire, c'est vraiment que ça se regroupe. Mm-hmm. Alors, l'histoire économique se répète toujours. L'histoire économique, ça se passe toujours pareil. C'est qu'au début, on a des offres qui sont dispersées et puis qui se regroupent. Et donc, je pense qu'on va aller vers ça. Et je pense que les métiers de la domotique, de l'équipement de la maison, des objets connectés, de la gestion des ouvrants, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, je pense que ces métiers, ils sont vraiment appelés à, peut-être pas fusionner, mais en tout cas à se regrouper.
D'accord. Donc, votre vision, pour être très clair, c'est ce que vous évoquez, c'est un petit peu le principe de Decathlon. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un réseau de distribution par activité sportive, le golf, le vélo, le tennis et ainsi de suite. Et puis, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui a regroupé l'ensemble des activités, et qui a recruté des professionnels, qui étaient à même de répondre aux demandes de chacun des sportifs qui venaient.
Absolument, parce que les gens dans la salle qui sont dans ma tranche d'âge, ils s'en rappellent. Jean-André, au fond, là-bas, ou d'autres. Ils s'en rappellent quand on avait 15 ans, on allait acheter un maillot de bain, il y avait le magasin des maillots de bain, le magasin des trucs de foot, le magasin des baskets, etc. Maintenant, on ne se pose pas la question, on va chez Decathlon. Donc l'avenir de la civil economy, c'est quelque chose qui peut ressembler à ça. Enfin, ce n'est pas un magasin, bien sûr, mais c'est vraiment des plateformes uniques de produits et de services. Et c'est pour ça d'ailleurs, j'en profite, qu'avec Blue Linea, on a commencé à monter un embryon de plateforme, ça s'appelle Domiliance. Et donc, on est maintenant capable de proposer aux clients, quand Blue Linea vend des objets connectés, il est capable d'avoir un opérateur qui peut proposer d'autres types d'équipements comme les nôtres. Mm-hmm. Et inversement, il est rare que quand on pose un monte-escalier, par exemple, on ne détecte pas un besoin de téléassistance ou d'objets connectés. Et à ce moment-là, on en parle à Blue Linea. Voilà, on essaie aussi d'accompagner ce mouvement.
D'accord. Donc tous les deux, ce que vous évoquez finalement, c'est l'équipement domotique, réfléchir à l'équipement du foyer, réfléchir à l'équipement de la personne, c'est très souvent lié à une rupture qui se produit. Et s'il n'y a pas de réponse à apporter, c'est essentiellement un problème de distribution finalement.
Alors, c'est lié à une rupture ou plus exactement à une prise de conscience. Mm-hmm. La prise de conscience peut être une rupture. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Mm-hmm. Voilà. Il faut faire quelque chose, il faut s'en occuper. Et plus le marché se développe, plus la prise de conscience arrive tôt. C'est ça aussi. Hein. Plus les gens connaissent les solutions, moi je suis ravi qu'il y ait plein de concurrents sur le marché, par exemple. Parce que plus il y a de concurrents, plus le marché grossit, et plus les gens connaissent les solutions, et plus les gens nous appellent pour avoir du conseil. Donc, oui. Donc, il y a une prise de conscience. Après, oui, effectivement, ça fait partie d'un parcours plus large. C'est-à-dire que les gens, ils entrent dans le parcours d'aménagement du domicile, ils y entrent par un bout, quel que soit le bout. Parfois, c'est la téléassistance, parfois, c'est vers une chute, parfois, c'est juste une prise de conscience, parfois, c'est les enfants qui en parlent, comme dans les deux films qu'on a vus. Parfois, c'est... il peut se passer plein de choses. Et puis après, ben, y a un parcours qui se met en place tout doucement.
D'accord. Thierry Vallée, sur, alors justement, on évoque, on parle beaucoup des personnes, la nécessité d'interconnecter tous les services qui sont mis à disposition des personnes âgées au sein du domicile. On a évoqué également l'obsolescence, programmée, comme disent certains, de la technologie. Et vous, quelle est la réponse que vous apportez, puisque vous êtes plutôt fabricant de produits, et tout à l'heure, François-Xavier nous a dit que la technologie n'arrivait pas en première position dans la solution apportée à la personne âgée, mais faisait partie de la solution. Et vous, quelle est votre vision, effectivement, de ce marché de la silver economy, de la domotique au sein de la silver economy ?
Merci pour la question. Bonjour à tous. Pour compléter les propos de François-Xavier tout à l'heure, je dirais, nous, notre vision d'industriel, connue depuis pas mal d'années sur le domaine du logement, à travers
le... Est-ce que vous pouvez rappeler en deux mots, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas,
la société
voilà, qui vous êtes.
Alors, Aguerre est une industrielle spécialisée et leader dans son domaine d'activité pour l'équipement de produits électriques dans le logement, mais pour porter des solutions et des services, aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire. On est une entreprise franco-allemande, on est basé à Strasbourg, en Alsace, à côté exactement. On est 11 400 collaborateurs et on fait 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
Mais voilà, merci de le rappeler, parce qu'on peut ne pas vous connaître et vous êtes pourtant une grande entreprise française, donc c'est pour ça que c'est
tout
important.
Tout à fait. Comme on est en période préélectorale, beaucoup de nos produits sont fabriqués en France, donc on défend le Made in France sert à certains de nos politiques.
Très bien.
Alors, pour répondre à la question de départ, comment nous, on perçoit la technologie dans le logement, je préfère utiliser le mot technologie que domotique. Parce que la technologie, ce n'est pas une technologie, mais c'est des ensembles de technologies qui vont être assemblées pour apporter un usage fonctionnel aux personnes qui sont dans leur logement. Mmh. Ça, c'est très important. Donc, avant tout, c'est comment moi je suis, si on prend maman dans le film qui a été présenté, c'est comment maman, demain, elle va pouvoir continuer à vivre chez elle pour bien vivre, mmh, pour bien vieillir, pour garder le lien vers ses communautés externes, que ce soit la famille, que ce soit les aidants, que ce soit des amis, mais tout en préservant aussi une installation qui n'est pas figée. Mmh. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve dans des installations traditionnelles. C'est comment la technologie ou les technologies que je vais embarquer dans le logement vont permettre cette évolution en fonction de la pathologie de la personne. Mmh. Aujourd'hui, je suis jeune retraité, je suis actif, j'ai toute mon autonomie, mais avec l'avancée dans l'âge et le parcours résidentiel que je peux avoir des déficiences qui apparaissent. Mmh. Ces déficiences vont apporter que je vais avoir, au travers de mon installation électrique, des problèmes d'utilisation. Mmh. Et la technologie ou les technologies ensemble vont faire en sorte que ça va pouvoir évoluer. Alors chez nous, on parle de bien vivre, de bien vieillir, d'être un logement connecté, et on le voit à travers les tendances. D'ailleurs, François-Xavier, on pourrait en témoigner aussi. C'est qu'on s'aperçoit que les technologies rentrent de plus en plus dans les bâtiments, que ce soit les bâtiments tertiaires liés à la performance énergétique, que ce soit dans les logements, là aussi la performance énergétique. Le maintien à domicile est un élément aussi très très fort, et tout ce qui va toucher derrière demain la immobilité, la charge des véhicules électriques. Donc apporter des services, nous à Guerre Industrielle, ça fait à peu près plus de 10 ans qu'on travaille sur le sujet, on s'est dit, avec notre regard d'industriel, mmh, qui parlait très fortement produit, là aussi on a eu cette rupture chez nous. On s'est dit, si on veut parler solution, c'est une réponse à un besoin. Mmh. Alors, si je veux schématiser quatre thématiques, le confort de vie pour maman, demain dans son logement. Elle a une installation électrique traditionnelle. Comment demain je vais pouvoir lui apporter des solutions parce qu'elle va avoir une déficience ou des déficiences qui vont apparaître ? Eh bien, le premier sujet, c'est quel est le lien entre la personne âgée et son installation électrique ? C'est l'interrupteur. Alors, j'ose espérer qu'il n'y a pas de promoteur dans la salle, ou alors s'il y en a, je m'en excuse auprès d'eux. c'est que dans 95% des cas de figure, vous avez dans les constructions des murs blancs avec un interrupteur blanc et des plaques blanches. Et oui, c'est la réalité du marché. La première chose qu'une personne âgée a, c'est des déficiences visuelles liées à l'âge. Allez faire qu'une personne âgée au jour d'aujourd'hui va appuyer sur un bouton de commande si elle a une déficience visuelle ou une perte, une déficience intellectuelle. Simplement, moi je dis aux promoteurs immobiliers, quand je les rencontre, ou les bailleurs sociaux, la première chose que vous faites, c'est que vous mettez une plaque de couleur. C'est pas grand chose, ça coûte pas bien cher, et déjà vous apportez une réponse. On peut aller plus loin maintenant dans la démarche. Mettre un voyant permanent. Imaginez maman qui veut se lever la nuit pour aller aux toilettes, et papa dort à côté d'elle, elle va pas vouloir le réveiller. Souvent de fois, les personnes âgées, qu'est-ce qu'elles font? Elles se lèvent dans le noir. Et oui. Et c'est là où on augmente le risque de chute, parce qu'elle va se cogner dans un meuble ou autre, et là, c'est l'accident qui arrive, et derrière, avec la fragilité, part en institution. Le but, c'est pas ça qu'on recherche. C'est simplement de mettre un petit voyant qui va permettre à la personne âgée que lorsqu'elle veut se lever la nuit, elle va appuyer sur son petit voyant qui lui permet de localiser son point de commande et qui va lui allumer son guidage nocturne. Ça, c'est une autre solution. Ça, c'est plus lié à du confort. Si on veut toucher la sécurité de la personne dans son logement, là, je vous donne encore une autre piste. On équipe les logements au jour d'aujourd'hui, d'après la loi Morange, d'un détecteur avertisseur autonome de fumée qui protège en cas d'incendie. Si on imagine maman qui a des déficiences intellectuelles, de pouvoir dire je me mets à faire de la cuisson et demain, pour une raison X ou Y, j'oublie que j'ai mis en cuisson. Au bout d'un moment, il va y avoir de la fumée, risque d'incendie. Eh bien, on peut imaginer que la technologie, et là c'est du réel, mon DAF s'enclenche. Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais faire que je peux couper la plaque de cuisson si elle est électrique et qu'elle est sur la techno. Mais je veux pouvoir aussi prévenir la personne âgée dans son logement sur son smartphone qui a un début de fumée. Mais aussi, je vais pouvoir, si c'est le soir et que la personne elle a fermé ses volets roulants, ouvrir les volets pour faciliter l'accès aux services de secours. Parce que quelques secondes, ça peut sauver la vie de maman. Et on sait que ça, c'est très très important. Mais aussi avertir les aidants, avertir les proches ou les services associés. Donc on voit qu'on est dans une communication vers l'extérieur. Ensuite, on a tout ce qui touche le lien social. On en parle assez souvent avec Laurent. Comment demain la technologie va me permettre de préserver ce lien social? Eh bien, aujourd'hui, à travers des applications qu'on peut retrouver sur sa tablette ou son smartphone, qui va permettre à une personne âgée qui a fait une chute, qui est partie en institution et qui revient chez elle, qui va être peut-être alitée pendant un certain temps dans son lit, et de ne pas faire appel aux aidants pour piloter son environnement de vie. Et là, c'est le côté qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'avec une application, je vais pouvoir allumer mes lumières, je vais pouvoir fermer mes volets, je vais pouvoir ouvrir la porte du logement parce qu'il y a quelqu'un qui va venir sonner. Ça, la technologie le permet. Et la dernière chose sur laquelle je peux apporter une réponse, c'est le côté évolutif sur la technologie. On n'est pas figé. Là, je prends l'exemple de maman. Je suis son petit-enfant, j'ai voulu lui faire plaisir, je lui ai acheté un objet connecté qui paraît simple, qui est la petite station météo. Alors, je ne sais pas si je peux citer la marque. Allez, on est entre nous, Netatmo. Je lui ai fait plaisir. Petit objet connecté, elle a sa température, son appli. Et bien, la technologie, nous, on le voit, qu'ils soient complémentaires les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que la petite station météo Netatmo, elle va communiquer avec mon installation intelligente, donc domotique, la technologie. Elle va me servir à quoi ? À créer mes propres scénarios. Et j'entends par là, on a tous vécu dernièrement le plan canicule, donc pour nos personnes âgées, ben la station météo, elle va faire quoi? Elle va relever la température à l'intérieur du logement, et nous, à travers la technologie, on va déterminer des seuils, soit haut, soit bas, plan canicule, plan grand froid. Imaginez maman qui a ses troubles cognitifs, qui va ouvrir ses volets le matin pour aérer son logement, comme elle l'a fait depuis des années, et pour une raison X ou Y, elle oublie de refermer. Le froid va arriver ou la chaleur va rentrer dans le logement. Et bien, qu'est-ce que la technologie permet de faire? De créer un scénario qui va dire, voilà, plan canicule, la température atteint un seuil à l'intérieur du logement, je vais informer la personne à l'intérieur du logement, je vais faire une action à sa place qui est de descendre les stores, les volets roulants électriques, je vais informer les aidants. Donc on voit qu'on rentre dans une dimension qui, au jour d'aujourd'hui, va au-delà de du produit, c'est plutôt les services et les solutions que ça apporte. juste pour finir, ces solutions existent aussi bien dans le neuf que pour l'ancien. Et ça, c'est la grande nouveauté. Depuis début d'année, au jour d'aujourd'hui, on est capable d'adapter un logement existant pour apporter du confort et de la sécurité tout en étant évolutif dans le logement de maman et du logement de monsieur et madame tout le monde.
Merci. On voit effectivement que ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce sont des solutions au quotidien. Parce que très souvent, on envisage des projections dans l'avenir, mais qui sont très déconnectées des usages quotidiens. Et là, les réponses que vous avez apportées, les exemples que vous avez cités, étaient tous situés dans le quotidien de la personne, et notamment de la personne âgée. Mais il reste encore une question, et je vais revenir peut-être auprès de François-Xavier, parce que vous avez évoqué tout à l'heure la définition de la solution pouvait être faite par un ergothérapeute. Et aujourd'hui, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que les ergothérapeutes sont-ils sensibilisés? Sont-ils formés? Connaissent-ils les solutions qui peuvent être proposées? Comment est-ce que les personnes âgées rentrent en relation avec ces ergothérapeutes? Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce process que vous avez évoqué tout à l'heure?
Effectivement, je pense que le mot prise de conscience est intéressant. Ça démarre d'une prise de conscience. Mm-hmm. Donc il y a un déclencheur, c'est maman ou les enfants disent il faut faire quelque chose. Et là, c'est un moment qui va durer très peu de temps. Mm-hmm. La prise de décision, il va falloir qu'il y ait la bonne personne avec les bonnes compétences, les bons arguments, des fois les bons contre-arguments, pour expliquer que c'est cette solution-là et pas une autre. Et que c'est après toute une ribambelle d'intervenants qui vont être crédibilisés par cette personne-là. Donc l'ergothérapeute est un exemple, hein, il y en a d'autres.
À qui pensez-vous d'autres?
Bah, ça peut être des fois un artisan,
oui.
Parce qu'on part d'un besoin, mm-hmm. et un artisan doit être capable de répondre à un besoin, mais d'écouter et très vite de détecter qu'il y a d'autres besoins et peut-être d'autres confrères à lui ou d'autres personnes qui pourraient aussi compléter la solution, par exemple.
D'accord.
Ça peut être des aménageurs, des architectes d'intérieur, des architectes. Si on prend tous ces gens-là, globalement, même les artisans, ils n'ont aucune compétence pour expliquer la domotique. Il faut être clair. Hein. Parce que c'est nouveau, parce que, vous l'avez dit en préambule, on en entend parler depuis des décennies, donc il y a aussi une perte de confiance de ces gens-là. Et puis parce que, professionnel, on va aller naturellement vers des choses qu'on maîtrise. Et bah, ces technologies-là, on ne les maîtrise pas. Donc nous, à la Fédération, on préconise la notion de binôme. C'est-à-dire, on va jamais monter un ergothérapeute en compétence jusqu'à être un expert en domotique. De la même façon, je n'ai jamais monté un domoticien en compétence jusqu'à être un professionnel de santé. C'est des métiers différents. Par contre, on voit bien que là, pour répondre à cette prise de conscience, il faut ces deux acteurs-là. Donc, l'ergothérapeute va crédibiliser le domoticien. Dans certains cas, c'est le domoticien qui est appelé. Et lui, à un moment, doit être capable de dire, vous me demandez un devis, je n'ai pas de cahier des charges, je suis capable de vous présenter monsieur machin qui est ergothérapeute, qui va venir vous voir. Et lui va crédibiliser un intervenant extérieur. Et nous, on les forme. Hein. On leur donne quand même un premier vernis. Donc, on travaille avec les organisations professionnelles d'ergothérapeutes, hein, la NFE, la Sainte-Fel, etc., pour que, petit à petit, parce que ça met du temps, hein, dans les formations métiers, et puis en formation continue, on commence à entendre parler de domotique, mais de façon rassurante, pas de façon anxiogène, et leur dire, voilà les cas, donc Thierry en a parlé, hein, des exemples très concrets, voilà les cas où la technologie peut être utile, et qu'ils aient le réflexe. Que dans leur mode de réflexion, dans leur mode d'analyse d'un logement, et ben dans leur boîte à outils, il y a des montes-escaliers, il y a des largeurs de portes, etc. Et puis il y a ces technologies. Et donc si on les brief, si on leur donne ce réflexe-là, si on les met en confiance avec des domoticiens du secteur, parce que s'il faut appeler un expert de l'autre bout de la France, il ne va pas le faire. Hein. Donc la notion de binôme, c'est, je ne sais pas, maman, elle habite où, alors, dans ton cas là, à la Baule. Donc à la Baule, il y a un ergothérapeute du secteur, ou plusieurs, des domoticiens du secteur, ou plusieurs, qui se connaissent, qui sont en confiance les uns avec les autres, et qui aient le réflexe de parler de l'autre métier quand c'est nécessaire.
D'accord. Laurent, ça m'intéresserait justement, puisque on cite régulièrement maman, que fait-on pour maman? Justement, pour favoriser cette prise de conscience et la réponse à cette prise de conscience, Qu'est-ce que vous apportez au marché? Quelle est votre vision justement sur ces évolutions à apporter?
Alors aujourd'hui, nous sommes dans un salon de la Silver Economy. Dans l'économie, il y a économique. Et chez nous, on entend modèle économique. C'est un salon B2B, donc parmi les personnes ici présentes, il y a peut-être des entrepreneurs, de futurs entrepreneurs de cette Silver Economy ou des prescripteurs. Concrètement, Blue Linea n'a rien fait mieux que les autres. Il a peut-être juste démarré un peu plus tôt par rapport à d'autres. Et le sujet est assez simple. 90% des seniors, ça s'appelle nos familles, souhaitent vieillir chez eux le plus longtemps possible. Seulement 6% des logements sont adaptés à ça. Donc il y a un paquet de boulot qui nous attend tous. Et concrètement, on l'a vu très justement, c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, quand vous êtes sur ce segment de la Silver Economy, quand on est présent et qu'on doit aider maman, bah quand on va aider maman, on va discuter avec les enfants. Et quand on va discuter avec les enfants, ils ont plutôt entre 50 et 70 ans, donc ce sont des consommateurs aguerris, et ils sont plusieurs, donc ils doivent faire un choix ensemble. Et du coup, il y a intérêt à avoir pris de la hauteur, à avoir regardé l'ensemble des sujets. On sait tous que l'eau, l'électricité, ça peut faire mauvais ménage, et grâce à la domotique, on arrive à leur réconcilier. Donc concrètement, ce sont des sujets que nous mettons en place, avec... je vais changer de micro peut-être ? Non, c'est... Ah, c'est de l'autre côté, d'accord. Il faut couper l'électricité. T'as une télécommande ou pas là ? Ouais. Un smartphone, d'accord. Alors, concrètement, sur ce segment de la Silver Economy, vous l'avez sur la téléassistance ou sur d'autres, il y a toujours ce qu'on appelle des financeurs, des prescripteurs et des bénéficiaires. Et ces bénéficiaires qui vont être avec maman sont intéressés à pouvoir payer ce qui s'appelle un reste à charge. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles vont prendre n'importe quoi à ces familles. Les financeurs vont être là pour pouvoir accréditer, accompagner financièrement. Il existe en France, si vous avez un handicap, la MDPH. Si vous êtes une personne en perte d'autonomie, désormais c'est l'ANA, l'Agence nationale de l'adaptation de l'habitat, qui va pouvoir prendre un pourcentage. Les départements, les mairies peuvent aussi s'accompagner, les caisses d'assurance, les caisses de solidarité. Et puis vous avez aussi des prescripteurs. La présence d'un ergothérapeute va crédibiliser, légitimer et va valider aussi la mise en place d'une adaptation de ce domicile. Aujourd'hui, que ce soit les clients de Dominique chez Indépendance Royale ou les clients de Thierry ou les miens, ils ont tous et bénéficient souvent ou d'avantages fiscaux ou d'avantages de subventions qui leur permettent de financer. Parce que ça coûte moins cher à la société qu'ils soient présents chez eux que partir dans un EHPAD. Donc du coup, tout le monde s'y retrouve. Et globalement, il a fallu mettre en place ce sujet. Et là, pour répondre à la question de Benoît, on n'a rien fait de mieux que les autres. On s'est juste intéressé à avoir un livrable réel qui ne fonctionne pas que 3 semaines, mais qui est là pour plusieurs années, qui soit accompagné. Blue Linea, juste par exemple, imaginez une chose. On a une plateforme H24 avec du personnel qui répond dans le cadre de la téléassistance à des détections de chute, à des personnes Alzheimer ou de médaillons d'alerte. Et on a plugué. On a connecté ces installations domotiques à cette plateforme qui permet comme ça, quand ces personnes peuvent rencontrer un problème technique ou un problème basique, vous savez, quand vous avez une personne qui est bloquée dans ses toilettes, qui n'arrive plus à en sortir, qui n'arrive plus à se déplacer dans son domicile, qui est bloquée dans son lit parce que son rail se bloque ou ce genre de choses pour la relever, eh bien, on a simplement eu l'idée de les connecter à nos plateformes pour pouvoir intervenir. C'est pas nous qui intervenons, c'est la famille, les voisins, les secours, selon le degré d'urgence. Globalement, le message qu'on veut juste apporter, c'est qu'il faut prendre de la hauteur, regarder l'ensemble de la picture, de vérifier, et d'arriver comme ça, avec des différents corps de métier, à avoir une réponse et une facture unique, avec un engagement contractuel qui s'appelle chez nous la promesse aux familles. Et c'est ça le plus important, d'instaurer cette confiance et de véritablement les emmener vers ces solutions, l'objectif étant de permettre à ces personnes de rester 4 ans, 6 ans, 8 ans de plus à leur domicile, de continuer à recevoir leurs petits-enfants chez eux, chez elles, au lieu de les recevoir dans une chambre d'EHPAD. Ce sont des objectifs qui sont loin d'être anodins, par exemple.
D'accord. Alors, Dominique Boulbès, tout à l'heure, vous nous expliquiez que quand vous aviez commencé une démarche chez un client, quand vous aviez fait installer un premier équipement, comme pourquoi pas un monte-escalier ou une baignoire à porte, en règle générale, le client n'en restait pas là et qu'il évoluait en termes d'équipement. il a adapté sa maison au fur et à mesure à sa vie, finalement, qui change. Et vous-même, mais comment est-ce que vous arrivez à sentir tout cela, à détecter effectivement tous les besoins de cette personne âgée? Vous travaillez avec des ergothérapeutes également, ou bien c'est votre savoir-faire? Et comment est-ce que vous basculez sur, puisque vous avez un vrai savoir-faire technique, j'imagine, à l'origine, comment est-ce que vous arrivez à basculer sur des solutions domotiques? Vous avez expliqué que vous aviez créé avec Blue Linea la société Domiliance, mais comment est-ce que se fait la prise de conscience chez vous, par exemple, de ces besoins en domotique et de solutions qui pourraient être apportées?
Alors, moi, je crois que le premier point qui est important à mentionner, c'est que dans un... Laurent a tout à fait raison. Dans un salon comme celui-ci, c'est le salon de la Silver Economy, il y a quand même une espèce de filtre cognitif dans un salon comme celui-ci, qui est un filtre un peu déformant. C'est-à-dire que quand on parle de Silver Economy, quand on regarde les startups qui se montent et quand on se balade dans les allées du salon, on parle majoritairement des personnes âgées dépendantes. Les personnes âgées dépendantes, c'est, je ne sais plus, 6 ou 7%, quelque chose comme ça. C'est 6 ou 7% des personnes âgées. Ça veut dire qu'il y en a 94% qui ne sont pas dépendantes. Il y a 94% des personnes âgées qui ne sont pas dépendantes. Et il doit y avoir des chefs d'entreprise ou des créateurs d'entreprise dans la salle. Eh bien, on s'occupe au moins autant des 94% de ce marché que des 6%. Ce que je veux dire par là, c'est que... bien sûr que les ergothérapeutes sont importants, mais ils arrivent souvent un peu en aval du processus quand effectivement il y a eu soit prise de conscience, il y a une chute, une rupture, tout ce qu'on peut imaginer. Et là, effectivement, la personne âgée devient dépendante, entre en dépendance et a besoin d'assistance, de conseils, de professionnels. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens qui font appel à nous, eh bien, ils décident tout seuls. On me dit tout le temps, c'est les enfants qui appellent. Oui. Sur le web, c'est les enfants qui appellent, c'est vrai, 50%. Mais sur plein d'autres canaux marketing, c'est pas les enfants qui appellent, c'est les personnes âgées. Et donc ça veut dire que la magie de l'économie, c'est que ça marche tout seul. La magie de l'économie, c'est que ça marche tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de corps intermédiaire pour médier tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes âgées, ce qu'on s'aperçoit, et chaque année, c'est de plus en plus vrai, c'est qu'elles sont acteurs de leur propre destin, elles le prennent en main. Donc ça veut dire que alors, nous, par exemple, vous nous appelez pour une douche à l'italienne, Blue Linea ou Hager ou je ne sais pas qui pour un autre produit. Mais elles voient que ça leur apporte un bénéfice, que par exemple, pour monter, c'est tout bête, hein, pour monter l'escalier, elles ont besoin de faire un palier, enfin de s'arrêter au milieu, là, sur le palier pour 2 minutes pour prendre le souffle. Bah, avec le monte-escalier, ça va tout seul. Et puis elles commencent à se dire, tiens, mais j'ai pas de volet ouvrant, il faut gérer les ouvrants. Alors ils appellent Somfy ou je ne sais pas qui, etc., etc. Ça veut dire que les gens, et plus le marché grossit, plus ça va être vrai, ils sont acteurs de leur parcours. Alors oui, bien sûr, en aval du processus, il y a des situations de dépendance, de prédépendance, d'entrée en dépendance. Et là, vous avez des gens, c'est vrai, qui passent par des ergothérapeutes, qui vont voir la petite dame du conseil général, qui vont voir le CCAS dans leur commune, enfin le centre d'action communale et sociale, qui vont voir ces gens-là. Mais ce n'est pas la majorité. Et de la même façon, les gens qui bénéficient de... Alors, il y a effectivement les subventions de caisse de retraite, subventions essentiellement du Conseil général, subventions, qu'est-ce qu'il y a d'autre, subventions des mutuelles, parfois, ça commence à arriver. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se payent tout seuls. Il y a quand même beaucoup de gens qui se payent tout seuls. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des personnes âgées, il est supérieur au pouvoir d'achat des jeunes. Hein, mes parents, ils ont 75 ans, ils ont... sûrement plus d'argent que... Ils étaient profs, hein, ils sont pas riches, mais ils ont sûrement plus d'argent que mon fils dans 5 ans. Hein. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils sont acteurs de leur propre destin, ils le prennent en main, et donc, bah, ça vient un peu tout seul. Ah, je me suis renseigné, j'ai regardé sur le web. C'est qui les clients des grands forums d'Accessibo, machin? C'est les personnes âgées. Donc, ils y vont, ils regardent, ils pianotent, ils pianotent pas, ils surfent, etc. Et du coup, les questions arrivent comme ça. Et les questions arrivent tout seuls parce qu'on leur apporte un bon produit, comme disait Laurent, un bon service. Et puis les questions commencent à arriver.
Donc ils se forment eux-mêmes à...
Oui, il y a une espèce de... Moi, je trouve que ce qu'on voit sur le marché, il y a une espèce de... Comment dire? Une espèce de lente maturation du marché. En marketing, on appelle ça le remplacement d'une demande pull par une demande push. C'est-à-dire un marché qui progressivement devient demandeur, alors que jusqu'à présent, il réagissait à de l'offre, à des insights d'offres. Et maintenant, c'est un marché qui devient demandeur. Donc l'ergothérapeute, oui, c'est une brique de dispositif, mais ce n'est pas la seule.
D'accord. Et alors, si on monte petit à petit en équipement au sein de sa maison, Aguer, vous êtes un fabricant, vous avez dit qu'il y avait d'autres fabricants. Je sais que François-Xavier m'avait dit qu'il comptait au sein de sa fédération 300 partenaires, 300 membres, alors pas tous fabricants. Mais comment fait-on, Thierry, pour faire que tous ces objets se parlent? Vous avez tout à l'heure évoqué les 5 télécommandes qui pourraient être sur la table de la salle à manger ou du salon. Comment est-ce que je fais effectivement pour que mes différents équipements, si j'en ai acheté une fois chez Aguer, une fois chez un autre, puissent effectivement se parler et que tout ça fonctionne pour moi, pour l'équipement de ma maison et pour répondre à mes problèmes personnels?
Là, c'est l'histoire de la domotique depuis des années. On a vu des émergences de protocoles de communication. Alors, je ne vais pas rentrer dans le côté technique. Hein. En gros, chaque industriel fait sa domotique dans ses ateliers avec leurs propres produits, en gros monomarque. Et on s'est aperçu chez Aguer il y a plusieurs années, parce que ça remonte il y a plus de 20 ans, si on restait chacun de notre côté à faire nos propres solutions, on allait proposer pléthore de solutions aux acteurs. Et à un moment, il faut bien prendre une décision. Mmh. Et à travers la décision, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que la solution que je mets en œuvre au jour d'aujourd'hui dans mon logement, est-ce que demain, elle existera toujours? Est-ce qu'il y a une pérennité dans le temps? Donc, il y a une vingtaine d'années, Aguer a décidé d'arrêter sa propre domotique propre à lui-même et de créer, à cette époque-là, le protocole de communication qui était un protocole européen, parce que nous étions envahis par des protocoles américains et on voulait défendre nos valeurs et nos frontières. Donc, est né ce protocole EIB qui a évolué au fur du temps de 3 industriels franco-allemands, plutôt à consonance germanique, est né ce protocole. Au jour d'aujourd'hui, ce protocole est devenu la norme internationale, est devenu la norme européenne, et on parle d'un protocole KNX de la fédération et de l'association Connex. D'accord. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on est plus de 300 industriels, si je ne me trompe pas François, plus de 300 industriels qui sont sur ce protocole, et ça représente plus de 4000 produits dans différents domaines d'activité qu'on retrouve dans les bâtiments. Gestion d'éclairage, chauffage, gestion d'ouvrants et ainsi de suite. Après, c'est comment je fais converger ces protocoles entre eux. Et là, c'est tout ce qui va être au jour d'aujourd'hui et demain, d'avoir des produits qui vont être multiprotocoles. Et là, on ouvre encore d'autres dimensions vers le monde, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vers le monde de la communication sans fil, sans pile, mais aussi vers le monde de la communication des objets Internet, les IoT. Voilà. Donc, ce qui fait que demain, on va pouvoir avoir des informations qui viennent de différents univers et qui vont converger et communiquer entre eux. Et je dirais, ça, c'est la technologie ou les technologies que l'on retrouvera dans les bâtiments et dans les logements. D'accord. Il faut que ce soit un gage de pérennité, de durabilité pour les investisseurs.
Évidemment. François-Xavier, vous participez bien entendu à cette mise en convergence des différentes technologies. Et d'autre part, comme Thierry a évoqué effectivement ce côté ouvert sur l'international, est-ce que je crois que vous menez des études sur les différents marchés européens. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Est-ce que les problématiques de domotique sont les mêmes en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne?
Je vais commencer par cette question-là.
Oui.
Au fait, les chiffres, là, c'est un baromètre. C'est très difficile d'avoir des chiffres en domotique, hein, puisque on parle d'univers. Il y a une douzaine de filières concernées. Mm-hmm. Déjà, dans chaque filière, c'est difficile d'avoir des chiffres, mais imaginez sur les 12 filières. Donc, nous, on a renoncé à avoir des chiffres, mais on est plutôt parti sur un baromètre. C'est comment ça évolue. Et on l'a fait sur 5 pays. On est passé à 7. Là, on passe à 10 pays en Europe. Et on constate, en gros, que il y a toujours l'Allemagne devant, parce que historiquement, hein, le bâtiment, la technologie, l'architecte est ingénieur, enfin il y a plein de raisons qui font qu'en Allemagne il y a un peu d'avance. Et puis juste derrière, il y a l'Angleterre et la France, donc on n'est pas du tout ridicule. On n'a pas forcément les mêmes fonctions, donc il y a des spécificités par pays. Il y a des pays qui ont beaucoup plus cet accès sur l'énergie, d'autres sur le numérique, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez troublant de voir qu'il n'y a pas du tout non plus les mêmes demandes. Hein. Et puis, il n'y a pas la même organisation. Et donc en France, nous, la solution qu'on a trouvée, c'est effectivement, pour faire converger tout ça, c'est de l'humain. Je ferai une analogie avec l'informatique. Reportez-vous il y a 25 ou 30 ans, vous achetiez une imprimante, bah, il fallait appeler le beau-frère, il téléchargeait un driver sur une disquette 3 pouces et demi, enfin, c'était l'enfer. Aujourd'hui, la domotique, c'est ça. Hein. Donc, je ne vais pas vous vendre un truc plug and play. La domotique, aujourd'hui, n'est pas encore plug and play. Il ne faudra pas attendre 20 ans, puisque ça s'accélère. Vous avez Apple, Google, Samsung, tout le monde investit des sommes folles dans ces domaines-là. Donc, ça va aller très vite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'humain qui permet de répondre au manque de plug and play. Même qu'on aura du plug and play, la domotique, c'est mettre en relation des équipements. Donc si j'ai une chaudière, j'ai un thermostat connecté, super, mais il faut bien brancher ce thermostat connecté à ma chaudière. Donc on aura quand même besoin d'humains, ne serait-ce que un chauffagiste en l'occurrence, par exemple. Donc si on imagine ce marché temporairement sur de l'humain, il faut développer ces métiers-là. Donc je suis assez d'accord sur... Dominique, tout départ, a parlé de... Alors, je ne sais plus comment tu en as dit, mais de guichet unique. Mm-hmm. C'est-à-dire, si chaque famille doit appeler 10 personnes et puis se renseigner sur 50 sites Internet, c'est dissuasif, en fait. Et on va faire une partie, et puis on va faire des erreurs. Et puis, si je n'ai pas confiance, je n'investis pas. Donc, cette notion de guichet unique, hein, c'est les entreprises que vous avez sur ce salon, qui sont présentées ici, c'est le fait de dire... je vous écoute et je vais vous mettre en relation, je vais vous proposer des solutions globales avec une approche économique globale pour que ce soit plus facile à expliquer. Et s'il y a besoin d'un professionnel, effectivement, dans la fédération, il y a 300 membres, mais la moitié de ces membres sont des gens de terrain, soit des gens de conseil, parce que c'est pas évident non plus de convaincre quand on est nous-mêmes installateurs. Donc c'est assez intéressant d'avoir des gens qui font uniquement la partie analyse, études, conseil. Et puis il y a des gens d'installation. Donc là, ça va jusqu'à... C'est du câblage, éventuellement. C'est du paramétrage sur des solutions sans fil. C'est effectivement... on a offert la station météo à maman à Noël. Ils savent peut-être pas la connecter ou... Quand je la déballe, elle donne une température, c'est pas passionnant. Le vrai bénéfice, c'est quand je la mets en relation avec les volets, avec l'éclairage, avec la chaudière, etc. Donc là, je vais mettre un professionnel en place pour l'installation et puis pour la pérennisation de cette installation. Thierry a parlé d'évolution, je pense que c'est un mot-clé. Hein. Je ne vais pas investir si c'est one shot. Par contre, si on m'explique que c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer au fil du temps, au fil de ma situation, de mes pathologies, de mes déficiences. Là, je vais investir, ou la famille va investir, parce qu'il y a une vraie continuité. Je n'investis pas à fond perdu, j'investis sur du long terme.
D'accord. Alors justement, puisqu'on parle de la famille, Thierry a parlé tout à l'heure du lien social. Laurent, ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue sur justement toutes ces solutions qui sont apportées au domicile de la personne. En quoi contribuent-elles à créer du lien social, soit avec le reste de la famille, soit avec tout simplement son environnement personnel, hein ?
Alors, depuis le début des années 2000, nous tous, nous gagnons, et nous avons jusqu'à l'année dernière, gagné 18 mois d'espérance de vie supplémentaire tous les 5 ans. C'est génial. Par contre, nous n'avons gagné qu'une seule chose, que 6 mois d'espérance de vie en bonne santé. C'est moins drôle. Et depuis l'année dernière, on a même marqué une pause sur l'espérance de vie tout court. Globalement, c'est ça. Et du coup, chez Blue Linéa, on s'est intéressé à ces facteurs de risque. Pas les facteurs de risque cliniques, hein, les facteurs de risque psychiques et physiques. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui vieillissent bien et pas d'autres ? Et là, on s'est aperçu que l'objet connecté, c'était un prétexte. Un prétexte surtout à continuer à mettre en place un lien social. Et ce lien social, c'est ce qui fait qu'une personne âgée, elle se sent bien dans sa tête, elle se sent bien dans sa famille, bien dans son entourage. Elle continue à voir des personnes. Elle n'aime pas qu'on fasse à sa place. Elle n'aime pas qu'on lui dise de se reposer. Elle n'aime pas qu'on lui mette devant les yeux « Bah écoute, maintenant, il faut se poser, on va faire à ta place. » Non, c'est le dernier truc à faire. C'est peut-être l'aider, c'est peut-être l'accompagner, mais en aucun cas, faire à sa place. Parce que sinon, vous allez atrophier physiquement et socialement cette personne. Et ça, il n'y a rien de pire. Se sentir inutile au milieu des siens. Faites le test entre vous, vous verrez quoi. Vous n'avez pas du tout envie que ce soit vos enfants qui s'occupent de vous, quel que soit votre âge. Et alors, vos beaux-enfants, votre beau-fils ou votre belle-fille, encore moins, il y a ce genre d'éléments. Donc concrètement, on s'est aperçu qu'il y avait besoin de travailler. Je vais juste revenir sur un point, si tu me le permets, Benoît. Par exemple, chez Blue Linea, on a un taux de croissance important, c'est génial. En ce moment, la société reste petite. C'est juste que le secteur est balbutiant, c'est le début. Et malgré un gros taux de croissance, on s'est aperçu que notre carnet de commandes augmentait plus vite que notre chiffre d'affaires. Parce qu'il faut du temps, il faut déployer. C'est génial, c'est un problème de riche, comme je dis. Mais on a été même jusqu'à devoir créer une école de la domotique. Une école de la domotique avec deux publics. Un public qui est l'ergothérapeute, ils y accèdent gratuitement. On leur donne des sessions d'information aidées par la FFD pour pouvoir expliquer, présenter dans cette école de la domotique. Il y a tous les fabricants de domotique. C'est pas juste Monsieur Hager, Monsieur Legrand, Monsieur Somfy, c'est tous. Pourquoi ? Parce que l'important, c'est d'avoir une solution à 100%. Et elle ne peut pas être à 100% que Hager, que Somfy, que l'homme grand ou que d'autres. Il y a toujours des petits éléments qui font que l'ensemble va marcher. Je me trompe, Thierry, ou pas ? Voilà. Et de l'autre côté, ça c'est pour les ergothérapeutes, leur dire voilà, adapter une porte, les circulations, les volets, la température, différents éléments, voilà le budget qu'il faut constituer. Et à côté de ça, on forme aujourd'hui des électriciens. Comme le disait très justement tout à l'heure FX, on l'appelle FX entre nous, hein, François-Xavier, s'ils continuent à faire de l'électricité à la papa, ils sont morts. S'ils continuent à installer de la domotique comme ils peuvent, en étant experts d'une marque pour un public très ciblé, très riche, et que tout va bien, et que même s'il faut changer la maison pour que la domotique marche, ils le font, il n'y a pas un gros marché pour ça. Mais par contre, les emmener vers l'handicap, vers la perte d'autonomie des seniors, leur expliquer les bons réflexes, leur expliquer le bon sens et les aider dans la programmation de toutes ces aides techniques, ça, ça a du sens. Et aujourd'hui, nous, on a pris la décision, par exemple, de ne plus avoir un seul installateur salarié. On ne s'appuie que sur des réseaux de partenaires, la plupart étant dans la FFD. Pourquoi ? Parce que comme ça, on a un maillage national et on arrive comme ça, comme le fait très bien Dominique, hein, il m'a montré le chemin. T'as, je crois, 50 installateurs qui travaillent en ton nom. 60, pardon. 60 installateurs qui remplacent quoi ? 4000, 5000 salles de bain par an ? 5000 ? Et comme ça, le maillage prend. Et il y a un type, lui ou moi, qui prenons l'engagement que les travaux vont bien se passer dans le délai imparti, au prix donné. Et ça, c'est un élément qui fait que la confiance s'instaure. Donc globalement, c'est ça le sujet. Et là, on est en train de réfléchir à l'Institut. Si certains d'entre vous, d'ailleurs, veulent venir nous voir sur le Cube et dire « j'ai envie d'en savoir plus », on réfléchit à comment informer les familles de ce qu'il faut faire, éviter ou pas faire, gratuitement. On s'en fout. On sait qu'on réussira quand même à avoir ce marché. Mais gratuitement, pour qu'ils puissent se faire leur propre esprit critique et de ce fait enclencher ces travaux, enclencher cette prise en compte de « qu'est-ce qu'on peut faire pour maman ?» Voilà.
Est-ce que vous avez... On a été très bavards, donc le temps a tourné. Peut-être avez-vous des questions à poser à nos quatre intervenants ? Oui ? Il y a un micro ou... Parce que comme il y a un petit peu de bruit à l'extérieur, je pense qu'on aura du mal à vous entendre. Monsieur au deuxième rang. Troisième, pardon. Merci.
Bonjour. Je suis gérant d'une société d'aide et de maintien à domicile. Vous avez parlé tout à l'heure de guichet unique avec un interlocuteur unique qui gérerait un ensemble de prestations. Est-ce que vous pensez qu'une société d'aide à domicile peut être cet interlocuteur unique dans cette logique, voilà, d'avoir non seulement des services d'aide à domicile humains, mais on sait qu'on intervient au quotidien auprès des bénéficiaires. On a, je pense, ils ont confiance en nous, on connaît leurs habitudes, on fait des évaluations régulièrement, les auxiliaires de vie sont présentes. Donc est-ce qu'on pourrait être une porte d'entrée pour crédibiliser des produits ou de la domotique adaptés à chaque besoin et à chaque situation ?
Monsieur me regarde, donc j'imagine que la question est pour moi. Je pense que vous pourrez compléter si besoin. Alors la réponse est multiple, mais oui, c'est une des voies. Globalement, c'est les gens les plus proches qui sont les plus crédibles. Et c'est eux qui sont capables de détecter des choses que peut-être l'utilisateur ne va pas forcément... verbaliser. Donc plus on peut avoir
je dirais, une analyse fine, précise, au bon moment de la situation, plus notre réponse va être bonne. Donc, toutes les services comme les sociétés comme les vôtres sont évidemment candidates avec cette logique de formation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les bons arguments, vous allez décrédibiliser la domotique, en fait. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Et c'est pour ça qu'avec Bluelin et là, avec les fabricants, là, on prépare un Tour de France, on imagine des choses. Alors, dans un premier temps, pour les ergothérapeutes, mais on peut imaginer pour tous les acteurs au contact des seniors, c'est pas une formation, c'est une information. La pédagogie, avoir les bons arguments.
Je crois.
Absolument. Après, je ferai une parenthèse parce que j'étais à une conférence hier et j'ai été troublé par le fait que dans les 21 domaines qui sont éligibles au crédit d'impôt, il y a de l'informatique, mais il n'y a pas la domotique.
Ah oui.
Donc, c'est une question qu'on pourra poser. Moi, on travaille avec les politiques, on fait aussi du lobbying, etc. C'est peut-être d'imaginer que ce type de conseil soit éligible à des crédits d'impôt, en gros, il faut faciliter. Donc, Dieu sait que c'est un enjeu de société. C'est un domaine qui va énormément grossir. Donc, peut-être que les politiques pourraient aussi nous aider à faire en sorte qu'il y ait une prise en charge.
C'est le bon moment de pousser un peu ce genre de proposition, je crois. Hein.
Absolument.
Une autre question ? Oui ? Vous vouliez en reposer une deuxième vite ?
Juste pour préciser qu'on avait déjà un petit peu entrepris cette démarche de complémentarité de services avec des services donc d'aide à domicile avec une cinquantaine d'auxiliaires de vie, mais également un partenariat avec une société de livraison de repas à domicile locale et également avec un partenaire de téléassistance. Donc on a peut-être envie d'aller plus loin suite à cette conférence, mais plus avec une mise en relation, voilà, sans sortir de notre domaine de compétences non plus.
C'est ça qui est clé, en fait, c'est la notion de binôme. Le binôme, là, vous allez être en binôme avec un installateur ou un domoticien de votre secteur. Donc regardez sur l'annuaire Fédération Française de la Domotique, vous regardez dans votre secteur, et s'il y en a un qui n'est pas trop loin, rencontrez-le. Si vous avez un bon feeling, ben voilà, c'est quelqu'un que lui pourra mettre ses clients en relation avec vous et vous mettre vos clients en relation avec lui. Et c'est comme ça qu'on arrivera à crédibiliser tout ce secteur.
Merci. Monsieur, vous avez une question ?
Oui, Charles Virton, je travaille pour un fonds d'investissement. Si je comprends bien, quand on parle de guichet unique, en fait, on a besoin de diagnostiqueurs ou d'ergothérapeutes pour savoir ce dont on a besoin au sein de l'habitation. On a besoin, le guichet unique doit aussi répondre à quels sont les bons produits à mettre, quels sont les services à la personne à mettre en relation, quels sont éventuellement les financements pour adapter le besoin. Ma question est, aujourd'hui, quels sont les acteurs qui existent ? Vous dites qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Quels sont ceux qui commencent à répondre à ce besoin ? Et quelles ont été les levées de fonds récentes faites dans ce domaine-là ?
Là, je vais me permettre de répondre. Nous, on ne parle pas de guichet unique, on parle d'interlocuteur unique qui s'engage. C'est-à-dire, c'est pas juste quelqu'un qui évalue une situation et qui dit « il faudrait ça ». C'est pas juste quelqu'un qui dit « Ah, on m'a dit qu'il faudrait ça, du coup, je vais vous faire ça. » Et puis quelqu'un qui vous dit « D'ailleurs, ça coûte tant. » Et puis quelqu'un qui vous dit « Ah, au fait, vous pourriez avoir telle aide. » Aujourd'hui, Bluelinéa essaye d'être ce type d'opérateur, ce nouveau type d'opérateur. C'est la raison pour laquelle l'entreprise aujourd'hui est cotée en bourse et nourrit beaucoup de souhaits pour l'avenir. Parce qu'il faut un nouveau type d'opérateur, un conseiller de la famille qui va avoir cette vision 360 et qui va pouvoir, de 70 à 100 ans et plus, accompagner ces personnes au fur et à mesure et créer une relation de confiance avec un modèle économique qui est souvent basé sur l'abonnement. Qu'est-ce qu'on fait après le décès de cette personne ? Qu'est-ce qu'on fait quand la personne, 10 ans plus tard, a besoin d'autre chose ? Et là, il faut qu'on ait cet accompagnement. Donc nous, on ne dit même pas de guichet unique, on dit d'interlocuteur unique qui prend la confiance et qui prend un risque global. Du coup, ce risque est crédible et légitime. Voilà.
J'entends bien. Quels sont les autres acteurs ? Vous ne voulez sans doute pas parler de vos concurrents, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui existent ? Est-ce qu'il y a des levées de fonds conséquentes qui ont été faites ces 12-18 derniers mois dans ce domaine-là ?
Alors, des levées de fonds, oui. Il y a eu pas mal de levées de fonds qui ont été faites. Il y a d'ailleurs des fonds d'investissement qui se sont un peu spécialisés, si ça vous intéresse, on pourra en parler après, mais qui sont spécialisés sur la silver economy. Nous, Indépendance Royale, on a commencé cette phase-là. C'est-à-dire qu'on a commencé maintenant à... On a lancé un programme de fusion-acquisition, donc on cherche.
on cherche à acheter des sociétés, on cherche à financer des sociétés. Voilà, je le dis ouvertement. Par rapport à ce que vous disiez sur la mise en relation, effectivement, pas guichet unique, ça fait un peu sécu, plutôt, comme il disait, Laurent, interlocuteur unique ou plateforme, il y a un point qui est intéressant. Il se trouve que j'étais au Japon, il se trouve que j'ai de la famille au Japon, mon frère habite au Japon, et j'en ai profité, je suis allé voir le salon des personnes âgées au Japon, au HLA de Tokyo, là. Et quand j'y suis allé, je m'attendais, le Japon, les robots, le machin, je m'attendais à trouver des trucs fabuleux, des robots, des trucs extraordinaires. Vraiment, j'y allais avec cette attente. Et en fait, vous savez que le Japon, c'est la démographie française dans 25 ou 30 ans, je crois. Hein, c'est impressionnant. Il y a vraiment, je crois, plus de la moitié de la population française, japonaise qui a passé les 60 ans, je crois. Je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. C'est donc ça. Vraiment, c'est des têtes grises. Hein, vraiment,
La pyramide est inversée. Hein,
c'est inversée. Moi au Japon je suis plutôt jeune, hein. ça fait toujours plaisir, mais voilà. Et donc quand on va à ce salon, qu'est-ce qu'on voit? C'est très intéressant. Il y a assez peu de technologies. Il y a ce qu'on trouve ici, téléassistance, objets connectés, etc. Par contre, vous arrivez dans les stands et vous apercevez que tous les acteurs de l'écosystème, c'est-à-dire, alors au Japon c'est pas des départements, c'est des espèces de provinces, enfin c'est un peu pareil, vous apercevez que toutes, dans chaque province, ils ont nommé un monsieur Silver Problem, enfin Silver pas économie, mais Silver, enfin un interlocuteur. Et ils ont mis tout ça en interconnexion. Ils ont mis en interconnexion, il y a les deux, trois fabricants, il y a l'interlocuteur de la province, ils ont une espèce de sécurité sociale japonaise qui s'appelle, c'est le ministère de la, je ne sais plus comment. Donc en fait, l'innovation, c'est que vous avez par exemple des brochures, on voit sur les stands des brochures, où tous ces acteurs sont sur la même brochure. Et ça a été fait par eux. Et puis vous avez un petit pictogramme avec une personne âgée et puis des flèches qui partent sur tel organisme, tel organisme, tel organisme, tel organisme, tel organisme, tel fabricant, tel entrepreneur, etc. Et donc la vraie innovation que j'ai trouvée au Japon, c'est que j'ai trouvé un système connecté. J'ai trouvé un système où on avait connecté entre eux les opérateurs. Et moi, à une époque de ma vie, je me suis intéressé je faisais autre chose, mais j'étais patron d'un groupe de clinique dans la cancérologie. Donc un groupe de clinique sur la radiothérapie, etc. Et le plan cancer des années 2000, pour ceux qui s'en rappellent, c'était quoi le plan cancer? C'est de mettre en relation la personne qui opère la tumeur, la personne qui envoie des rayons, la personne qui fait la chimio, la personne qui traite à l'hôpital, etc. etc. On a mis tout ça en relation parce que ça n'avait pas été mis en relation. Et les gens, ils avaient des risques de chance de survie qui diminuaient parce que la mise en relation n'avait pas été faite. Et bien là, c'est pareil. L'avenir, c'est vraiment la connexion. Plus qu'une plateforme unique, c'est la mise en réseau des intervenants, économiques ou autres, et des financeurs.
Une autre question?
Oui, ça sera la dernière.
Voilà, je crois. Il y avait deux personnes qui avaient levé la main.
J'en aurais deux. Rebondir sur ce que vient de dire le dernier interlocuteur. Donc, vous venez du monde médical, je veux dire. Aujourd'hui, quels sont les ponts avec les plateformes justement développées par un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques, pour ne pas les citer, je veux dire Novartis, Sanofi, qui commencent aujourd'hui à proposer justement une information pour le médecin, puisque aussi on n'a pas parlé du médecin, le premier interlocuteur vis-à-vis d'une personne âgée, c'est son médecin traitant. Hein, et donc aujourd'hui, il y a des plateformes proposées par ces labos qui proposent aux médecins justement tout un parcours pour accompagner le vieillissement. Et j'ai regardé ce matin, justement, avant de venir sur ces plateformes, la domotique n'y apparaît pas. Donc, je voulais savoir, puisque vous êtes un spécialiste de ça. Et deuxième question, la domotique, si j'ai compris, elle va passer d'une domotique fermée à une domotique ouverte, interconnectée. Comment abordez-vous le problème de sécurité de la donnée?
Qui veut répondre?
Parce que c'est l'éternel problème. Vous êtes médecin vous-même, monsieur?
Non.
C'est l'éternel problème, c'est que le vieillissement, il est abordé par la médecine comme aujourd'hui. Mais comme toujours, par le médicament. Donc il est abordé par la pathologie et le médicament, il n'est pas abordé de façon holistique, il n'est pas abordé de façon globale. Donc ce que vous dites est absolument vrai.
Oui, mais on va passer du curatif au préventif. Aujourd'hui, il n'y a que 5% d'investissement dans le préventif.
Mais ça, c'est un problème global, hein, qui n'est pas lié uniquement aux personnes âgées. Hein. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de clore cette...
Et le volet sécurité, pourquoi vous zappez?
Je vais juste apporter une réponse par rapport à la question. Parce qu'on parlait juste de la domotique et les données, la sécurisation des données. Au jour d'aujourd'hui, on est plutôt dans une notion de solution embarquée dans les logements, où on touche le confort, la sécurité, le lien social et autres. On n'est pas dans la donnée médicalisée. Je ne dis pas que demain, le logement tel qu'on peut l'imaginer, on ne va pas aller vers de la mesure d'activité, et c'est ce qu'on appelle le terme actimétrique dans le milieu médical, c'est-à-dire je vais être capable de faire de la prévention suivant la pathologie de la personne par rapport à son environnement de vie. C'est-à-dire la personne, si demain elle a un malaise, sans avoir d'artifice sur soi-même, d'être capable de renvoyer une alerte, je crois que c'est Laurent qui en parlait tout à l'heure, de renvoyer une alerte à distance. Donc là où demain, lié à la diminution du nombre de médecins dans le milieu rural, c'est comment demain je vais pouvoir communiquer avec mon médecin à travers les moyens de communication et comment à travers les données que j'ai médicalisées, elles lui sont communiquées. Là, on est déjà dans une dimension de e-santé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des plateformes qui soient certifiées et homologuées par le gouvernement. Il en existe quelques-unes. Mais on est persuadé que le développement des technologies feront que demain, le logement fera bien plus que ça et ira vers ce domaine-là. Mais il y a de la législation et il y a légiférer sur ce domaine-là. Mais là, nos politiques sont là pour s'en charger. Mais on est dans cet axe-là dans les années à venir.